apprenez à reconnaître les oiseaux dans votre jardin, dans un parc public ou tout simplement depuis votre balcon. En savoir plus sur les oiseaux des jardins et comment les accueillir. Bienvenue aux oiseaux des jardins sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM avec notre invité Damien Drier, sartois passionné par nos amis à plumes. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'une espèce d'oiseau spécifique, mais d'un phénomène propre à nombreuses d'entre elles. Je veux bien sûr parler de la migration.
Oui, la disparition des oiseaux, la migration en hiver. Alors, la disparition des oiseaux a été remarquée depuis longtemps par les premiers observateurs. Et on en trouve des traces dans les premiers écrits de l'humanité, puisque par exemple, dans l'Iliade, Homère parle de l'agitation des grues avant leur départ. Dans la Bible, on parle de l'épervier qui s'envole vers le midi. Et puis Aristote, ce philosophe grec, très grand observateur de la nature, avait aussi noté la disparition des oiseaux. Avant l'invention des calendriers, les agriculteurs utilisaient aussi le départ et l'arrivée des oiseaux pour se repérer dans le temps et dans les saisons. Ce mouvement des oiseaux était donc une source de croyance, de prédiction, de victoire chez les Romains, mais pouvait être aussi une annonce de catastrophe ou d'épidémie. Mais ces connaissances sont restées très partielles pendant longtemps. Par exemple, au Moyen-Âge, on croyait que les oiseaux hibernaient, que l'hirondelle sommeillait dans les marécages ou sous la glace, que certains oiseaux même partaient sur la lune, ou que des espèces se changeaient en d'autres espèces en hiver. Et il a fallu attendre la fin du 19e siècle, puis le 20e siècle, pour affiner ces connaissances grâce aux bagages, puis aux balises, aux radars et même aux analyses biologiques des plumes.
Alors après ce petit rappel historique, je vous invite à nous expliquer ce qu'est exactement la migration.
Alors, la migration se définit par un déplacement périodique selon un rythme annuel ou non. Et donc, la migration se distingue des comportements erratiques, des comportements dispersifs ou des mouvements invasifs suite, par exemple, à des épisodes climatiques ponctuels. Dans le règne animal, il n'y a pas que l'oiseau qui migre, hein, et on peut observer le déplacement, par exemple, des papillons qui migrent, comme le vulcain ou la belle dame dans nos régions. Migrent aussi les criquets, les crabes, les poissons comme le thon, le saumon ou l'anguille, mais aussi les baleines, les tortues, et puis chez les mammifères terrestres, les antilopes, les gnous, les éléphants, les caribous. Voilà, il y a une grande variété de migrateurs et même le zooplancton dans les océans qui effectue une migration en verticale puisqu'il, le jour, il remonte à la surface pour manger le phytoplancton qui est attiré par la lumière et la nuit, il replonge dans les profondeurs. Donc cela se définit par une migration puisque c'est un déplacement périodique. Alors les oiseaux restent naturellement les champions de la migration puisqu'ils se déplacent vite et loin avec une grande économie d'énergie grâce à leur vol. En Europe aujourd'hui, chaque hiver, il y a 4 milliards d'individus qui partent en Afrique et sur ces 4 milliards d'individus, le pouillot Phytis représente à lui seul 900 millions d'individus. Et juste après lui, il y a l'hirondelle rustique et l'hirondelle fenêtre qui représentent 300 millions d'individus. Alors, il faut savoir que les trois quarts des oiseaux sont migrateurs, complètement ou partiellement. En France, par exemple, sur les 500 espèces qu'on peut observer, seules 40 espèces sont totalement sédentaires.
Quelles sont les principales raisons de ces migrations et est-ce que cela concerne toutes les espèces ?
Alors, la raison principale de la migration relève d'une stratégie hivernale. En hiver, les ressources alimentaires viennent à manquer, les insectes disparaissent. Et donc, pour survivre, il existe différentes stratégies adoptées par les animaux. Ils peuvent changer de régime alimentaire, ils peuvent hiberner. Chez les oiseaux, il y a une espèce qui s'appelle l'engoulevent de Nuttall sur le continent américain qui choisit par exemple d'hiberner. Mais c'est la seule espèce connue à ce jour. Donc les oiseaux changent de régime, hibernent, ils peuvent faire des réserves, des stocks en hiver, comme le jais qui stocke des glands et des châtaignes et d'autres fruits des arbres. Et puis bien sûr, la migration. La migration assure une meilleure condition de nourrissage en hiver, puisque les oiseaux arrivent sur des zones où il y a des grandes quantités d'insectes pour se nourrir, mais la migration, en contrepartie, génère son lot de cadavres. Il faut affronter la fatigue. Il y a le risque de désorientation dû au vent, aux tempêtes, aux brouillards. Et puis, il y a aussi les dangers de la prédation. Et enfin, au retour des migrations, le mâle retrouve un territoire qu'il a abandonné et donc il doit le reconquérir. Et donc, c'est encore de l'énergie à dépenser. Donc, la migration est un choix spécifique à chaque espèce, mais aussi à chaque individu à l'intérieur d'une espèce et aussi spécifique à chaque zone géographique. On peut aussi le dire autrement, on peut dire que la migration est fonction de l'ensoleillement de la zone où vit l'oiseau. On a remarqué que à l'équateur, il y a peu de migration puisque l'ensoleillement est assez stable tout au long de l'année. Et plus on remonte en altitude, plus l'ensoleillement varie et donc plus les oiseaux auront besoin de revenir dans une zone en hiver où il y a de l'ensoleillement et donc de la nourriture. Les migrations peuvent s'effectuer sur des longues distances. Alors c'est pas forcément optimal, mais ça peut s'expliquer par une raison historique où en fait il y a quelques millions d'années, les scientifiques émettent l'hypothèse qu'il y a eu un individu africain commun, un ancêtre commun aux oiseaux migrateurs qui vivait donc au niveau de l'équateur. Et les individus ont eu besoin de s'étaler à cause d'une trop grosse densité. Et donc, se sont au fur et à mesure écartés de l'équateur, mais en revenant à chaque fois à leur point d'origine en hiver. Et ça explique pourquoi nos oiseaux aujourd'hui, par exemple comme l'hirondelle, viennent jusque chez nous en été, mais reviennent en hiver en Afrique subsaharienne, où ils retrouvent d'autres hirondelles, d'autres espèces, mais très proches d'elles au niveau morphologique. Par exemple, le coucou gris a un cousin africain qui est extrêmement semblable à lui. Et l'hirondelle rustique, pareil, elle a un ancêtre, enfin elle a une cousine qui s'appelle l'hirondelle d'Angola, qui elle a préféré rester sur place et qui est très proche d'elle au niveau morphologique. À l'opposé, par exemple, le troglodyte mignon, ce petit oiseau qui passereau tout brun à la queue relevée que l'on trouve dans nos jardins, est d'origine américaine et il est non migrateur, car il n'aurait aucun intérêt à revenir en Amérique retrouver ses racines américaines, puisqu'il retrouverait les mêmes conditions hivernales, et donc il reste chez nous en hiver. Les espèces sédentaires se retrouvent aussi surtout en forêt. Les pics, les citelles, les grimpereaux et puis les mésanges forestières comme les mésanges nonnettes et huppées et puis aussi la chouette-ulotte qui est une chouette forestière et puis les gallinacées sont des espèces qui migrent peu ou pas du tout parce qu'elles ne sont pas en fait, elles n'ont pas d'ancêtres africains et n'ont pas gardé cette sorte d'atavisme de souvenir de l'Afrique et de ces zones de ces savanes où en hiver il y avait du soleil en permanence. Le régime alimentaire peut aussi déterminer la distance parcourue lors des migrations. On a remarqué que les petits passereaux insectivores comme les pouillots, les martinets, les fauvettes effectuent des migrations beaucoup plus longues que les granivores comme les chardonnerets, les gros becs. Et que les passereaux à régime alimentaire mixte, donc à la fois herbivores et insectivores, le rouge-gorge ou la fausse à tête noire, vont eux effectuer des migrations à des distances intermédiaires. Et de même chez les rapaces, toutes les espèces migratrices qui se nourrissent d'animaux à sang chaud, comme les rongeurs, d'autres passereaux et puis les micro-mammifères, eh bien ces rapaces vont hiverner au nord du Sahara, alors que tous les rapaces qui se nourrissent de proies à sang froid, comme les lézards et les serpents, vont eux hiverner au sud du Sahara. Enfin, les migrateurs ont l'habitude de voler sur des longues distances en été pour se nourrir et nourrir leurs petits. Par exemple, la mésange bleue qui peut effectuer jusqu'à 100 km par jour pour nourrir sa nichée. L'hirondelle, c'est plusieurs centaines de kilomètres par jour. Et le martinet, lui, c'est 1000 km par jour. Donc, les oiseaux migrateurs, en fait, sont entraînés toute l'année à voler sur de très longues distances.
Lost in the jungle, love is a door. In a kung fu hustle, who you gonna choose to lose to? A Roman emperor or a crown of thorns? Well, you made your bed, you're a big boy now, so how's it gonna play out? A little push in a pool and a rough and a tumble, a bittersweet pill that you just won't swallow. I believe there's a key to a castle with an aching heart that's crying. Stop, take time, think a bit, slow down and look at what you've got. Lost in the thick of it. Stop, rewind a little bit. Who knows, you might go changing minds. Shifting paradigms.
Big fish in a slow coach, stuck in your mind. Gonna eat your heart out, one, two, the end of the universe. See the planet spinning out of time. There's a yearning, burning feeling you're concealing somewhere there.
A little push and a pull and a rough and a tumble. A bittersweet pill that you just won't swallow. I believe there's a key to a castle with an aching heart that's crying. Stop, take time and think of it. Slow down and look at what you've got. Lost in the thick of it. Stop, rewind a little bit. Who knows, you might go changing minds. Shifting paradigms. Push and a pull and a rough and a tumble. A bittersweet pill that you just won't swallow. I believe there's a key to a castle with an aching heart that's crying. Stop, take time, think a bit. Slow down and look at what you've got. Lost in the thick of it.
Stop, rewind a little bit. Who knows, you might go changing minds. Shifting paradigms.
Et quelles sont donc les aptitudes indispensables à ces oiseaux afin de pouvoir migrer ?
Alors, la migration met en jeu ce qu'on appelle les capacités cognitives de l'oiseau. Alors, on ne parle pas d'intelligence, on va parler d'instinct, d'apprentissage, de mémoire. La migration peut être innée chez certaines espèces, comme le coucou gris. Le coucou gris, donc, c'est cette espèce où la femelle va pondre un œuf dans le nid d'autres espèces, d'autres passereaux, et va se retirer, et donc le petit du coucou ne sera jamais élevé par ses parents, et donc ne sera jamais suivre ses parents sur une migration. Donc de façon innée, il va partir en migration, il va savoir sa direction et son temps de vol. En revanche, chez d'autres oiseaux, la migration s'apprend, elle s'acquiert, et cette transmission du savoir Elle n'est pas que dans la migration. Elle commence pour les oisillons par l'alimentation, par le chant, la façon de jouer, de marcher, de voler, de s'enfuir. Et donc, de la même façon, les oisillons vont apprendre à identifier une route aérienne, un pôle magnétique, à suivre des étoiles, à reconnaître ou à entendre les marées, et puis à reconnaître les saisons. Alors, au niveau de la physiologique, bien sûr, on l'a dit en introduction, le vol est donc l'atout principal de l'oiseau pour ses migrations longue distance. Le vol, donc, qui s'appuie sur la plume, qui est la spécificité aviaire. Le vol en migration peut être battu, c'est-à-dire à partir de battements d'ailes pour les petits passereaux, mais il peut aussi s'effectuer de façon planée, de vol plané, ou du ce qu'on appelle le vol à voile, pour les grands rapaces et les échassiers, comme chez nous, la buse variable, par exemple. Et puis aussi, il y a des planeurs marins pélagiques dans les océans, comme les goélands et les albatros. Le vol, en général, s'effectue à une vitesse entre 40 et 70 km/h. Et ce vol, enfin cette migration peut s'effectuer soit en solitaire, soit en groupe ou en V pour améliorer l'aérodynamisme du vol. Dans le vol, la graisse représente vraiment le carburant que va dépenser l'oiseau pour activer ses muscles. Et donc en automne, avant les grandes migrations et le déplacement vers les zones d'hivernage, on voit les oiseaux qui mangent beaucoup et qui vont jusqu'à doubler de poids, de graisse. Et en même temps, certaines espèces ont appris à s'alléger ou à alléger d'autres organes, par exemple comme la barge rousse, qui va diminuer peut-être ses intestins ou d'autres organes, parce qu'il faut trouver un équilibre entre le maximum de graisse, mais un poids tout de même assez léger pour pouvoir voler sans trop dépenser d'énergie. On a même constaté chez certaines espèces, notamment chez le bécasseau maubège, des cas d'auto-cannibalisation, c'est-à-dire que l'oiseau va manger ses propres viscères, ses propres muscles, pour continuer sa migration dans le cas où il n'y a plus assez de graisse pour atteindre l'objectif final. Autre spécificité physiologique des oiseaux, les oiseaux ont une oxygénation permanente de leur sang par la respiration, c'est-à-dire qu'à l'inspiration et à l'expiration, l'oxygène se transmet dans le sang pour atteindre les muscles. Chez l'être humain, l'oxygénation ne se fait qu'à l'inspiration. À l'expiration, il n'y a que de l'air rempli de CO2 qui sort et il n'y a aucun oxygène qui se transmet dans le sang. Enfin, pour certaines espèces qui migrent à des altitudes très élevées, leur sang a une caractéristique, elle possède plusieurs types d'hémoglobine, comme par exemple chez l'oie à tête barrée, qui va migrer, qui va passer au-dessus de l'Himalaya. Ensuite, l'orientation. Comment les oiseaux s'orientent-ils ? Alors, ils utilisent leur sens et tous leurs sens. D'abord, le premier sens, la vue. Les oiseaux peuvent voir, par exemple, la lumière ultraviolette, c'est-à-dire qu'ils peuvent distinguer les rayonnements ultraviolets du soleil à travers les nuages. Donc, très utile pour se diriger lorsque le temps est nuageux. Les oiseaux, pour certains migrateurs, peuvent aussi distinguer la lumière polarisée, qui, pareil, permet de voir la direction du soleil à travers les nuages. Les oiseaux ont aussi un sens de la temporalité pour recaler justement cette position du soleil en fonction de l'avancement de la journée. Les oiseaux utilisent aussi leur audition, puisqu'ils peuvent distinguer des infrasons, c'est-à-dire des sons à très longue portée que l'être humain ne peut pas entendre. Et ces infrasons sont très utiles pour entendre de loin, par exemple, le bruit des vagues et donc la direction du littoral, où cela permet aussi d'entendre le vent qui s'engouffre dans les vallées, qui va contourner des hautes montagnes. Certains oiseaux, comme les pigeons voyageurs, utilisent aussi leur odorat. Ils vont mémoriser les odeurs et les parfums des zones qu'ils vont survoler, et donc ils vont se fabriquer une carte odorante de leur trajet. Et enfin, les oiseaux migrateurs peuvent capter le magnétisme de la Terre, comme par exemple le rouge-gorge ou le pigeon voyageur, encore lui. Ils ont une sorte de boussole et qu'ils arrivent à recoller quotidiennement avec la position du soleil dans la journée. Ainsi, les oiseaux vont se créer et vont mémoriser et affiner des paysages, des cartographies à la fois visuelles, sonores, magnétiques pour se diriger. Ils vont aussi avoir la capacité de naviguer, de se diriger avec des repères topographiques et astronomiques.
Toutes les migrations sont différentes selon les espèces, alors comment celles-ci s'organisent-elles ?
Alors, il y a effectivement une grande diversité d'organisation dans la migration. Le départ d'une migration peut s'effectuer pour une espèce sur une seule journée, tout le monde part en même temps, ou le départ peut être étalé. Le vol peut s'effectuer de nuit, par exemple pour le vol battu, pour les petits passereaux, ils vont plutôt voler de nuit parce que l'air est frais, il est moins turbulent et puis il y a moins de prédateurs. Donc il est plus économique en termes d'énergie et moins dangereux de voler de nuit. Et donc le passereau va apprendre à changer son métabolisme. Au lieu de vivre en été, il va vivre dans la journée, se nourrir dans la journée et se reposer la nuit. Eh bien, lors des migrations, il va inverser son métabolisme. Le vol peut s'effectuer à haute altitude pour le vol à voile, pour les rapaces qui effectuent du vol plané, parce que à haute altitude, il y a beaucoup moins de turbulences verticales et donc ça assure un vol plus économique. Les migrations peuvent s'effectuer en famille, donc parents et petits juvéniles partent tous en même temps. Et donc c'est l'occasion pour les petits d'apprendre, d'imiter les parents et d'apprendre la cartographie et les trajets. Mais chez certaines espèces, les adultes peuvent partir avant les petits. Les petits doivent se débrouiller avec un héritage inné de leurs parents sur la direction et le temps de vol. La migration peut aussi s'effectuer par vagues successives. Par exemple, les mâles vont partir en premier, puis les femelles, puis les jeunes. Les migrations peuvent s'effectuer par étapes, c'est-à-dire par petits sauts, et cela permet aussi de se nourrir et de se reposer. Certaines espèces vont migrer sans aucune escale, vraiment sur un seul trajet, donc avec des grandes réserves de graisse. La migration peut s'effectuer, on l'a dit, donc en altitude pour les vols planés, mais aussi en rase-motte, plutôt pour les passereaux. Chez certaines espèces, la migration, enfin le trajet de l'aller sera le même que le trajet du retour. Et chez d'autres espèces, le trajet sera différent entre l'aller et le retour. Et d'ailleurs, ces trajets peuvent être aussi des sortes de boucles. Chez une espèce, tous les individus peuvent migrer. Donc c'est vraiment l'espèce entière qui migre. Ou certains individus peuvent décider de ne pas migrer. En fonction de leur zone géographique, de leurs expériences, ils vont choisir de rester sur leur territoire pour le garder et de se nourrir de quelques insectes qui restent ou de changer de régime comme on l'a évoqué précédemment. Enfin, les oiseaux peuvent s'égarer comme nous, humains, on confond notre gauche et notre droite. Et ben les oiseaux, et notamment les jeunes, peuvent confondre le nord et le sud. Et donc, ils se trompent, ils partent dans la mauvaise direction. Ou des oiseaux marins peuvent, par exemple, se retrouver dans des zones de montagne, dans les Alpes. On a des oiseaux européens qui vont se retrouver au Japon, des oiseaux asiatiques qui vont se retrouver en Europe. Et donc, ces erreurs vont être source de nouveautés pour les observateurs.
Concernant les itinéraires et lieux de migration, ceux-ci sont-ils toujours les mêmes ?
Alors, dans notre hémisphère, les oiseaux migrent vers le sud en hiver et remontent au printemps. Par exemple, pour une espèce comme le rouge-gorge, les individus qui nidifient dans des pays nordiques, comme le Danemark, la Grande-Bretagne, Suède, Finlande, vont passer l'hiver en France, alors que les rouges-gorges qui nidifient en France, eux vont partir plus au sud, Méditerranée, Espagne ou Afrique. Et donc, la première remarque, c'est que on voit des rouges-gorges toute l'année dans nos jardins, mais ce ne sont pas forcément les mêmes individus. En hiver, on verra les individus nordiques pour ceux qui migrent. Certains rouges-gorges décideront de ne pas migrer du tout. Donc en général, migration vers le sud en hiver et remontée au printemps. Alors, sur différents trajets, mais qui ont souvent en point en commun d'avoir ce qu'on appelle des entonnoirs, donc des zones où vont passer les migrateurs. Ce sont des sortes de goulets ou de corridors qui peuvent être de trois types. Le premier type, c'est un entonnoir qui est dessiné par la mer. Les rapaces et les échassiers, les grands échassiers comme les cigognes, sont toujours réticents à survoler la mer parce qu'il n'y a pas d'ascendance thermique qui leur permet le vol plané, le vol à voile. Donc les trois quarts de ces rapaces d'Europe et échassiers vont transiter soit par le détroit de Gibraltar à l'ouest de l'Europe, hein, au sud de l'Espagne, ou soit par le détroit du Bosphore, côté est de la Méditerranée, côté Turquie. Et puis en moindre nombre, certains vont migrer au milieu de la Méditerranée en passant par l'Italie, la Sicile et puis en gagnant l'Afrique par la Tunisie. Donc le passage de la Méditerranée se fait par ces trois entonnoirs, ces trois corridors, et donc le passage finalement de la Méditerranée est assez facile. Deuxième type d'entonnoir, c'est une canalisation qui se fait, qui est due à deux contraintes physiques, par exemple deux versants de montagne qui obligent l'oiseau migrateur à passer dans la vallée, ou par exemple d'un côté un versant montagneux et puis de l'autre côté la mer ou un grand lac. Cette contrainte peut être aussi le vent. Par exemple, la tramontane va rabattre les migrateurs vers la Méditerranée, qui va aussi les bloquer. Et donc, on aura un entonnoir côté Perpignan, côté ouest de la Méditerranée, enfin le littoral méditerranéen. On a aussi, par exemple, les oiseaux marins qui peuvent être poussés par le vent près des côtes et bloqués par la terre. Et dernier type d'entonnoir à migrateurs, ce sont les îles, comme Ouessant, qui vont jouer donc ce rôle d'entonnoir et qui vont permettre aux oiseaux qui sont un peu perdus au large, par exemple, de venir se reposer et de se réorienter. Et ces îles vont aussi beaucoup attirer les migrateurs lorsqu'il y a la présence d'un phare, dont la lumière dans la nuit va attirer ces migrateurs. Donc voilà, les entonnoirs vont dessiner les trajets des migrations. Mais certaines migrations vont s'effectuer en boucle. Donc l'aller et le retour seront différents. Par exemple, des passereaux qui vont quitter la France à l'automne en longeant la façade atlantique vont par exemple préférer remonter au printemps par la façade méditerranéenne, par le couloir du Rhône, en suivant un trajet un peu plus direct. Et puis on a aussi des migrations en boucle pour les espèces, enfin certaines espèces marines de haute mer, donc ce qu'on appelle les espèces pélagiques, comme les albatros. Autre type de migration, on a les migrations des oiseaux des montagnes, des montagnards. Ces oiseaux montagnards vont migrer, mais vont migrer du sommet vers les plaines, pour gagner en hiver des milieux qui seront moins exposés au gel et à la neige. Donc sur ces migrations des montagnards, les distances seront courtes, mais il y aura un grand changement d'altitude. Enfin, il y a des migrations qui vont se faire, enfin qui vont commencer par une partie à contresens. Par exemple, la migration de mues des plumes. Certaines espèces, la nidification estivale, vont migrer dans un premier temps sur un site très riche en ressources alimentaires et ça va pouvoir leur permettre de changer leurs plumes usées par des plumes neuves et donc très performantes pour le vol longue distance. Et souvent, ces sites riches en ressources alimentaires sont situés plus au nord que l'aire de nidification habituelle. Donc on verra ces oiseaux migrateurs commencer par partir vers le nord, puis reprendre la direction du sud. Il existe aussi ce qu'on appelle la rétro-migration, c'est-à-dire une sorte de demi-tour de distance assez courte. En général, c'est inférieur à 100 km. Mais de temps en temps, ça peut atteindre les 500 km. Cela concerne les oiseaux migrateurs qui disposent de peu de réserves de graisse, voilà, qui n'ont pas eu le temps de faire assez de réserves en automne. Et lorsque ces oiseaux ont utilisé tout leur carburant, sont obligés de rebrousser chemin. Ou sinon, une autre raison de ces rétromigrations, ça peut être une barrière, par exemple de montagne ou un épisode climatique qui font que les migrateurs vont rebrousser chemin pour une période très courte, le temps d'attendre que la barrière s'efface. Cette rétro-migration peut s'expliquer aussi par une compétition élevée pour la nourriture, notamment le long des côtes. Il faut savoir refaire ses réserves de graisse et d'énergie tout au long du parcours pour ceux qui survolent par exemple le littoral. Et lorsque ce n'est pas possible parce qu'il y a trop de concurrents, certains rebroussent chemin. Et ces rétro-migrations, en général, ces phénomènes peuvent durer un ou deux jours de suite, mais rarement plus. Donc c'est vraiment très court. Enfin, il y a les mouvements de fuite face à des conditions météorologiques défavorables. Donc c'est plus qu'une rétro-migration. Ces oiseaux, qui sont en général effectuent des migrations précoces, sont parfois obligés de rebrousser chemin face, par exemple, à l'apparition d'une vague de froid tardive. Et ils reprendront leur migration en sens inverse quand les conditions redeviendront favorables, ils attendent. Et au printemps, il est aussi fréquent que les passereaux avancent en suivant un front chaud, puis ils rebroussent chemin face à un front froid, puis réavancent. Donc c'est une sorte de deux pas en avant, un pas en arrière. Voilà. Donc c'est pas forcément tout ne se fait pas en ligne droite en avançant. Il peut y avoir des reculés. Enfin, si on veut finir sur les itinéraires, donc la grande difficulté, la difficulté majeure des migrateurs européens, c'est, pour ceux qui vont en Afrique, c'est la traversée du Sahara. Parce que la Sahara, donc, c'est un désert qui fait au plus court dans sa largeur 1500 km et en diagonale 2200 km. Et donc, en général, cela se fait sans escale, puisqu'il n'y a pas de nourriture ou très peu d'oasis au milieu du Sahara. Et donc, il y a un grand danger pour les migrateurs de mourir de fatigue au milieu du désert. À 40 km heure, par exemple, il faudra 40 heures de vol pour le traverser, ou 30 heures s'il y a des vents porteurs, par exemple entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. Un peu plus haut, 3000 ou 4000 mètres d'altitude pour ceux qui vont préférer des vents et des airs un peu plus glacés.
Tout petit caneton, j'attendais la plume qui ferait que mon nom soit dans les tribunes, des canards, des journaux, des vendeurs de brume. Les pattes dans la mare, j'avais beau tenter, un jour j'en eus marre. J'ai dû me barrer loin de tous ces oiseaux qui se ressemblaient. Sous mon jaune plumage, je me suis construit un cœur tout en couleurs. Et l'orage s'est envolé. Moi aussi, mes ailes, j'ai déployé ma belle. J'ai survolé un monde où l'on s'aime. Et moi aussi, mes ailes, j'ai déployé ma belle. J'ai survolé un monde où l'on s'aime. Après l'autre, j'ai gravi les dunes, les collines et les autres. J'ai fait le plus dur au milieu des vautours, des mauvais, des enflures. Au milieu des aigris qui brisent les rêves, lentement j'ai compris que le vent se lève. Jamais seul, non jamais, que quand on l'appelle. Mon jaune plumage, je me suis construit un cœur tout en couleurs. Et l'orage s'est envolé. Et moi aussi, mes ailes, j'ai déployé ma pelle. J'ai survolé un monde où l'on s'aime. Et moi aussi, mes ailes, j'ai déployé ma belle. survoler un monde où l'on s'aime. Tu déploieras ma belle, nous survolerons ce monde où l'on s'aime, où l'on s'aime. À la fin du chemin, lors je serai vieux, loin de tous mes chagrins, loin des envieux, je me rappellerai et puis encore, je m'envolerai.
Parmi toutes les espèces d'oiseaux connues, quelques championnes, si je puis dire, de la migration?
Alors, on peut donner quelques exemples, effectivement, de champions de la migration. On a des faucons en Asie qui peuvent, par exemple, parcourir 4000 km en 3-4 jours sans se nourrir. On a le puffin des Anglais, qui est un petit oiseau qui part du Pays de Galles, qui va rejoindre le Brésil en 16 jours, et qui va parcourir donc 700 km par jour à 30 km heure. On a les oies tête barrée, on en a parlé, qui franchissent l'Himalaya à plus de 9000 mètres d'altitude, hein, donc deux fois à l'aller et retour. Donc ils vont croiser des températures de moins 50 degrés. Chez nous, on a la cigogne blanche qui va voler, migrer à 5000 mètres d'altitude. On a le martinet noir qui, lui, va migrer tout en se nourrissant dans des poches d'insectes, dans des bulles d'air à 8000 mètres d'altitude. Et puis, on a la sterne arctique qui, elle, va migrer du pôle nord au pôle sud et donc qui va faire 20 000 km deux fois par an, une sorte d'oiseau bipolaire. Et puis le passereau qui effectue la plus longue migration de nos régions, c'est le traquet motteux, qui va migrer donc en Afrique, mais qui peut partir donc du Canada pour les individus qui vivent en Amérique, du Canada, qui vont rejoindre le Groenland, puis passer par l'Europe et arriver en Afrique. Voilà. Et d'autres traquets motteux, eux, vont préférer passer en Asie par le détroit du Bering, Russie, détroit du Bering, et rejoindre le Canada par le versant ouest. Voilà, donc très gros migrateur.
Au cours des siècles, des évolutions et des changements de comportement et d'attitude ont été observés chez certaines espèces. Alors pourquoi et quelles en sont les répercussions sur celles-ci?
Alors, pour reprendre le cas de notre super migrateur, le traquet motteux, les naturalistes ont remarqué que le traquet motteux du Nord a des ailes plus longues que celui du sud, parce qu'il va effectuer une migration sur une plus longue distance. Autre évolution, en Angleterre, en Grande-Bretagne, les Anglais qui sont fanats d'ornithologie nourrissent beaucoup les oiseaux en hiver, et on a remarqué par exemple que la fauvette à tête noire ne migre plus d'Angleterre, ou très très peu, puisqu'elle a toute la nourriture qu'il lui faut maintenant grâce aux mangeoires des humains. Et on a remarqué que ces individus-là ont leur bec qui s'est allongé pour pouvoir plus facilement attraper les graines sur les mangeoires, et leurs ailes se sont raccourcies parce qu'elles ont moins besoin de voler. L'activité humaine, au-delà du nourrissage, a aussi des impacts négatifs sur les migrations. On peut évoquer la pollution lumineuse qui peut perturber l'orientation des oiseaux. Il y a le risque de collision aussi avec les voitures, avec les bâtiments en verre, avec les éoliennes et avec les avions pour les migrateurs qui volent à haute altitude. Il y a aussi la modification des habitats, notamment dans les zones humides, qui amoindrit la qualité et la quantité des haltes migratoires. Et ces haltes sont essentielles pour certaines espèces migratrices pour reconstituer leurs réserves de graisse. Il y a bien sûr le réchauffement climatique qui modifie les migrations, qui vont raccourcir les migrations puisque l'oiseau aura besoin d'aller moins loin pour retrouver des insectes et de la nourriture à cause d'un climat plus favorable. Il y a aussi les grandes villes qui représentent soit un danger, soit un lieu de nourrissage pour les migrateurs. Il y a aussi les décharges, les poubelles. Et donc, les oiseaux vont choisir soit de s'arrêter dans ces villes, soit faire des étapes dans ces villes et donc modifier leur trajet. On a dit que les oiseaux s'orientaient grâce au magnétisme de la Terre. Eh bien, toutes les activités humaines vont créer une sorte de brouillard électromagnétique et qui va perturber justement ce sens de l'orientation des oiseaux. Enfin, il y a la chasse et le braconnage, notamment dans les entonnoirs à migration, sur les haltes migratoires, et donc qui vont constituer un grand danger pour les oiseaux. Donc la sélection exercée par ces changements de climat ou ces changements de milieu et d'habitat, cette sélection va favoriser les espèces avec un fort potentiel de dispersion et de migration, et donc avec une forte résilience face à l'extinction. Les espèces tropicales, qui sont non migratrices, ont ainsi un temps de vie inférieur à celui des espèces migratrices, alors que ces espèces tropicales occupent des milieux plus stables, avec un ensoleillement plus stable. Et donc, la capacité d'une espèce à adapter son comportement migratoire serait, selon les scientifiques, l'un des meilleurs recours face à l'extinction.
Enfin, quel impact a aujourd'hui la migration sur la biodiversité, mais de manière plus globale ?
Alors, les oiseaux, effectivement, à travers leur migration, vont générer, par exemple, des déplacements de virus, de microbes. Alors, on connaît la grippe aviaire dans nos régions, même si celle-ci semble transportée plus par le commerce des oiseaux d'élevage que par les oiseaux migrateurs. Autre impact des migrations, par exemple, chez la rousserolle verderolle, qui est une fauvette des marais, celle-ci a un chant purement imitatif. Elle n'a pas de chant propre, elle va imiter le chant des autres oiseaux et elle va inclure dans son répertoire de chants des chants d'autres oiseaux, de plusieurs oiseaux qu'elle va rencontrer en Afrique de ses migrations. Donc elle va participer à une sorte de mixage musical entre l'Afrique et l'Europe. Autre impact, des nouveaux chemins de migration vont être créés lorsque des individus vont s'égarer ou lorsque des sous-populations d'une même espèce vont mixer leur migration. Par exemple, si une population migre plutôt à l'ouest de l'Europe et qu'une population va migrer plutôt à l'est, et que ces deux espèces se reproduisent ensemble sur un même site de nidification, eh bien, il est possible que les oisillons, enfin les juvéniles, eux vont partir ni à l'ouest ni à l'est, mais plutôt dans un trajet intermédiaire qui sera plein sud. Voilà, et donc cela va créer des nouveaux chemins, des nouvelles migrations, et peut-être des nouvelles espèces ou sous-espèces. Voilà, en conclusion de ce survol des migrations, je reprendrai une citation d'Aristote dont on a parlé en introduction, qui disait, à juste titre, qu'une hirondelle ne fait pas le printemps.
Damien, je vous remercie pour cette nouvelle participation et je vous retrouve très très vite avec une nouvelle espèce d'oiseau à découvrir.
Merci et bon vol à tous.